VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 18h à Dakar, 19h à Niamey. Dans 10 minutes, le magazine Carrefour, Science et Santé, présenté par Camille Grosdidier. Mais auparavant, voici notre journal. Au moins 10 personnes, dont 2 élèves, ont été tuées et plieurs autres blessées dans le nord-ouest de la Centrafrique au cours d'une attaque menée par un groupe armé venu du Tchad. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source au sein de la gendarmerie. Cela s'est passé samedi dernier dans la région de Ngouandey. Plusieurs villages dans le nord de la Centrafrique ont subi ces derniers temps des attaques similaires de bandes armées. Des éléments des forces internationales se sont déployés dans ces régions pour sécuriser les populations. Au Sénégal, le président Macky Sall annonce vouloir réduire son mandat de 7 à 5 ans, conformément à l'une de ses promesses électorales lors de sa campagne de 2012, pour, a-t-il dit, donner un exemple en Afrique. Nicolas Pinault.
Oui, ce n'est pas une surprise, mais cette fois c'est officiel. Macky Sall va soumettre la question à référendum en 2016, en vue d'organiser la prochaine présidentielle en 2017 et non en 2019, comme actuellement prévu par la loi. Le chef de l'État sénégalais a fait cette déclaration lors d'une rencontre à Dakar avec l'Association de la presse étrangère au Sénégal, la première depuis son investiture en 2012. Durant sa campagne électorale, puis une fois au pouvoir, M. Sall avait promis de réduire le mandat présidentiel de 7 à 5 ans, mais il a expliqué mardi que cette modification concernant un mandat déjà entamé devrait d'abord passer par la voie référendaire après avis du Conseil constitutionnel. Si c'est validé, c'est en février 2017 que se fera l'élection présidentielle au lieu de 2019, a déclaré Macky Sall. Alors que dans de nombreux pays africains, certains s'éternisent au pouvoir en modifiant la constitution, le Sénégal reste un modèle de démocratie puisque Dakar n'a jamais connu aucun coup d'État depuis l'indépendance en 1960.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exhorté mardi le gouvernement burundais à mener une enquête approfondie pour retrouver et juger les auteurs de l'attaque contre la femme du principal opposant burundais, Agathon Rwasa, chef historique de l'ex-rébellion des Forces nationales de libération. Cette attaque intervient alors que le climat politique est de plus en plus tendu au Burundi à l'approche d'élections générales prévues en mai et en juin, avec la présidentielle. Le procès de 13 accusés du double attentat qui a tué 76 personnes en 2010 à Kampala durant la Coupe du monde de football s'est ouvert mardi, près de 5 ans après les faits, dans la capitale ougandaise. Les Somaliens Shebab avaient revendiqué l'attaque. L'Ouganda, rappelle l'AFP, était visée car elle fournissait à l'époque la moitié, le Burundi fournissant l'autre, des troupes de la force de l'Union africaine, la MISOM, déployée depuis 2007 en Somalie pour combattre les Shebab. Les Shebab ont multiplié récemment les attaques au Kenya voisin, revendiquant particulièrement le spectaculaire et sanglant assaut contre le centre commercial Westgate de Nairobi en septembre 2013. Les rebelles sud-soudanais ont dit ce mardi être engagés dans d'intenses combats avec les troupes gouvernementales. Les affrontements ont eu lieu près de la localité de Renk, dans l'état pétrolier du Haut-Nil, proche de la frontière soudanaise. Des sources humanitaires ont confirmé des combats dans cette zone, mais sans pouvoir donner plus de détails. Félix Yepassi Zembrou.
Le gouvernement sud-soudanais a affirmé hier que ses troupes ont tué de nombreux combattants rebelles près de Renk, ce qu'un porte-parole rebelle, Loni Ngundeng, a démenti auprès de l'AFP à Addis Abeba, assurant au contraire que l'armée sud-soudanaise avait subi de lourdes pertes. Les deux camps qui s'affrontent depuis décembre 2013 s'accusent mutuellement d'être à l'origine des combats autour de Renk. Après plus d'un an de pourparlers largement stériles à Addis Abeba sous médiation de l'organisation gouvernementale est-africaine IGAD, les responsables des deux parties au conflit se sont séparés sur un constat d'échec au début du mois de mars, suscitant la colère des médiateurs et de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté quelques jours avant l'échec des pourparlers une résolution prévoyant des sanctions contre les belligérants, mais n'a pas encore formellement désigné les individus concernés.
Au Tchad, nouveau développement dans l'enquête judiciaire ouverte par le gouvernement suite à la mort d'un étudiant la semaine dernière lors d'une manifestation contre le port obligatoire du casque à moto. Des éléments de la police d'intervention ont été arrêtés aujourd'hui. Une arrestation qui vient au lendemain de la publication d'une vidéo dans laquelle on voit des policiers battre des jeunes. Pour nous en parler, Salwaja Afari a joint par téléphone Dezoumbé Daniel Passalet. Il est le président de Droits de l'Homme sans frontières.
Ça, c'est une mesure gouvernementale, une mesure administrative que nous apprécions. Mais nous souhaitons que cela soit pérenne, parce qu'il ne faut pas faire ça simplement pour jeter de la poudre aux yeux des gens et puis faire autre chose. Ça, vraiment, c'est une chose intéressante. L'autre chose que nous avons appréciée, elle est antérieure à cette mesure, c'est l'ouverture d'une enquête judiciaire. Nous avons demandé au gouvernement à son temps d'ouvrir une information judiciaire. Si le gouvernement y est arrivé, ça, vraiment, nous apprécions pas et c'est à sa juste valeur. Mais nous voulons que vraiment que la justice soit indépendante, que le gouvernement ne revienne pas par ailleurs obliger la justice à porter ses enquêtes ou à laisser tomber certaines pistes. Ça vraiment, il faut que le gouvernement lave le nez de cette histoire-là, que l'enquête soit indépendante de nature à dire clairement à l'opinion que la police a tiré à balles réelles sur les manifestants.
Dezoumbé Daniel Passalet, président de Droits de l'Homme sans frontières.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Dans le reste du monde, les Israéliens se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour renouveler leur Knesset, leur Parlement. Le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, brigue un quatrième mandat dans ce scrutin. Michel Joseph.
Les derniers sondages effectués avant le vote d'aujourd'hui donnent l'avantage à l'Union sioniste d'Isaac Herzog, qui dirige une alliance de centre-droit face à M. Netanyahou. Mais aucun des deux leaders ne devrait avoir la majorité absolue de 61 sièges au Parlement de 120 membres. Dès lors, chacun de son côté déploie de gros efforts pour obtenir le soutien de plus petits partis, allant des formations communistes aux partis arabes et aux blocs de juifs orthodoxes. Pour les analystes, cette élection est un référendum sur la gestion Netanyahou. Hier, à la veille du scrutin, le Premier ministre est revenu sur sa position concernant la création d'un État palestinien, disant que s'il reste au pouvoir, un tel État ne verra jamais le jour. Mais, selon les sondages, les questions socio-économiques, la cherté de la vie et des logements. En tout état de cause, M. Herzog insiste sur la nécessité de négocier avec les Palestiniens.
Kaboul se félicite des informations selon lesquelles les États-Unis renonceraient à leur projet de ramener à 5500 le nombre de leurs soldats en Afghanistan avant la fin de 2015, suite à une requête de leur chef militaire sur le terrain. Les précisions de Lionel Gaïma.
Le représentant permanent de l'Afghanistan à l'ONU, Zahir Tanin, a dit aux journalistes à New York qu'il est nécessaire pour les États-Unis de mieux évaluer les réalités sur le terrain dans le cadre de leur partenariat stratégique avec l'Afghanistan et apporter les ajustements requis. Cela permettra à l'Afghanistan, a ajouté M. Tanin, de mieux faire face à ses défis sécuritaires. Bien qu'aucune décision finale n'ait été faite sur le nombre concerné, les officiels américains disent qu'on s'attend à ce que le gros de 10 000 soldats actuellement en Afghanistan reste dans le pays au-delà de 2015. Une annonce officielle pourrait intervenir, vraisemblablement, la semaine prochaine lors de la rencontre à Washington entre le président Barack Obama et son homologue afghan Ashraf Ghani. Hier, le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, s'est refusé à commenter tout chiffre spécifique, se contentant de déclarer « Je peux vous dire que le président est en consultation étroite avec son équipe chargée de la sécurité nationale ainsi qu'avec ses chefs militaires sur le terrain au sujet du rythme adéquat du retrait militaire ».
Au Yémen, des miliciens chiites du mouvement des Houthis au pouvoir à Sana'a ont attaqué mardi la résidence d'un commandant de l'armée yéménite, tuant l'un de ses gardes du corps. L'attaque est intervenue au lendemain du limogeage par les Houthis du commandant des forces de l'armée de l'air. Le général Rached Al-Joun est de l'un de ses adjoints. Le remplacement par des officiers proches des nouveaux maîtres de Sana'a. Les secouristes tentent toujours d'accéder aux îles du Vanuatu afin d'attendre les personnes touchées par un puissant cyclone. Le mauvais temps, les communications limitées, la géographie de ce pays composé de plus de 80 îles rendent difficiles les secours et toute évaluation des dommages depuis le passage de la tempête vendredi soir. 11 personnes sont confirmées mortes selon l'agence humanitaire des Nations Unies. Enfin, 12 détenus, tous hommes, ont été exécutés par les autorités pakistanaises ce mardi. Les organisations de défense des droits de l'homme le regrettent. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, Carrefour Sciences et Santé, présenté par Camille Grosdidier. Très bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.